cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 15 mars 1994.
La bête s'arrête de manger quand elle n'a plus faim. L'homme, pas toujours. Faut-il comprendre que la distinction entre l'estimative et la cogitative est cette convenance à la santé de la vie végétative qui semble impliquée dans la convenance du bien sensible à l'appétit de la bête et non chez l'homme? Est-ce ainsi à cause de ces deux raisons formelles différentes qu'on distingue deux puissances ou uniquement par l'exercice parce qu'il y en a une qui est sous l'emprise de l'intelligence, qui participe à l'intelligence dans son exercice, tandis que l'autre ne participe qu'à l'instinct, du moins est soumise uniquement à l'instinct. Et donc il y a dans la raison formelle quelque chose de distinct, pas uniquement dans l'exercice. Qu'on peut manger un peu trop parce que c'est très bon. Tandis que l'animal ne regarde pas l'aspect esthétique et l'aspect que c'est trop bon. Il mange uniquement pour se nourrir. Je ne crois pas que les animaux mangent de trop. l'image est connue directement. C'est l'image qui est connue dans l'imagination. Et je forme l'image qui m'intéresse. Le propre de l'image, c'est de représenter. Donc le domaine de l'imagination, c'est le domaine de la représentation. C'est pour ça que ce domaine de la représentation est tellement parlant pour les passions. Parce que la représentation reste sensible. Mais au-dedans de moi-même, comme un autre monde, c'est le monde des rêves. Et des rêves, tout en étant éveillé, je peux me laisser aller à mon imagination. Je me rappelle délibérément ce qui s'est passé hier, étant donné qu'il y a eu une entrevue très particulière avec telle personne, qu'il y a eu une colère extraordinaire, que j'étais très secoué. Alors je rappelle ça et ça revient. Et je mets du temps à digérer cela et l'assimiler. Vous voyez, c'est du recuit. Et c'est pour ça que c'est si lourd à porter. Et il y a une charge affective très forte. Et je rêve, je repense à ça. Et quand je dis je repense à ça, c'est pas repenser. Je de nouveau, j'imagine. Alors quelquefois, il peut y avoir un peu de pensée qui vient alourdir encore ce qui a été vécu la veille. Mais c'est du vécu. L'imagination, c'est toujours du vécu. Mais du vécu qui est vu et utilisé de façon différente. L'imagination peut être du vécu en vue de la fabrication, en vue de l'utilité, en vue tout simplement de pouvoir répondre. Le quart d'heure de sincérité, n'est-ce pas ? De vérité. Et alors, ça, on repense à ça. On a été pris sur le vif, on repense à ça. On repense aux attaques qu'on a faites. Si j'aurais pu répondre ça, j'ai pas répondu ça, à cause de ça, je sais pas, l'imagination. Et quelquefois, quand vous voulez prier, l'imagination l'emporte. Alors vous voyez très bien ce que c'est que l'imagination à ce moment-là. Et que c'est facile, l'imagination c'est toujours facile, on descend le fleuve. L'imagination ne nous élève pas beaucoup. Ordinairement, elle fait plutôt descendre dans l'assiette. Dans les bonbons. Dans les chocolats, surtout en carême. Allez. Il y aurait des tas de choses à dire sur l'imagination, mais je ne vais pas m'embarquer là-dedans, parce que vous savez que les médecins, il y a des médecins, les freudiens, se servent souvent de l'imagination et des rêves. Et il voit que dans l'imagination, il y a un renversement de la réalité, ce qui est très intéressant pour comprendre certaines choses au point de vue philosophique. Il y a un renversement de l'ordre des sensibles propres et des sensibles communs. L'imagination met en pleine lumière les sensibles communs. Et les sensibles propres, alors, sont relatif aux sensibles communs. C'est-à-dire que l'imagination, c'est la victoire des sensibles communs. Et dans l'image, c'est ce qui se passe très souvent. Et dans les rêves, c'est ce qui se passe. Et qu'à réfléchir tout simplement aux cauchemars. Les cauchemars, c'est toujours les sensibles communs. Vous êtes unique devant une foule de gens qui vient devant nous. Vous êtes arrêté, vous êtes bloqué, attaché. Immobile. Ou bien vous courez à toute vitesse et puis le chien court encore plus vite. Et puis vous réveillez au moment précis où le chien est là qui est en m'aider à penser. À penser intellectuellement. Mais l'image n'existe qu'intentionnellement. Et c'est ça qui est très important aussi à bien voir. Que le jugement d'existence ne peut pas être engendré par l'imagination. Seules les sensations externes me mettent en communion avec la réalité qui existe. Et c'est pour ça que seuls les sens externes et les sensibles propres permettent le jugement d'existence. Quand les sensibles communs l'emportent sur les sensibles propres, comme dans l'imagination, il n'y a plus de jugement d'existence. Et la plupart de ceux qui ont une peine énorme à comprendre le jugement d'existence, c'est qu'ils sont enveloppés par le monde imaginaire. Alors, ils n'ont plus que des images. Et leur connaissance intellectuelle demeure prisonnière de ces images. Et donc incapable de rejoindre le réel et d'opposer le jugement d'existence. Je crois que c'est le grand obstacle au jugement d'existence. C'est l'imaginaire. Et vous n'avez qu'un pouvoir politique sur l'imagination. Vous ne pouvez pas arrêter l'imagination comme vous voulez. Vous pouvez fermer les yeux quand vous voulez. Du moins, si vos paupières ne sont pas attachées avec un fil particulier, c'est pas normalement. Et vous pouvez ouvrir les yeux aussi quand vous voulez. Tandis que vous ne pouvez pas chasser et arrêter l'imagination. Vous ne pouvez pas mettre la main sur l'imaginaire, sur votre imagination. Vous n'avez qu'un pouvoir politique, dit Thomas d'Aquin, à la suite d'Aristote. Pouvoir politique, c'est-à-dire la seule manière d'arrêter l'imaginaire, c'est de penser très fortement à l'expérience. C'est l'expérience qui me met en contact avec le réel, qui me permet d'arrêter cette imagination qui essaie tout le temps de me saisir, de m'immobiliser et de m'empêcher d'aller plus loin. Alors à ce moment-là, je reste enfermé dans l'imaginaire. Et je ne quitte pas l'imaginaire.
Directement.
à l'imagination, parce que vous la mettez en furie. C'est vrai. Vous voulez... Ah, tais-toi. Ça continue. Vous n'avez pas de pouvoir direct. C'est pour ça que vous n'êtes pas responsable. Si vous aviez un pouvoir direct, vous seriez responsable. Vous n'êtes pas responsable de toute l'imagination qui peut passer à travers votre imagination. Vous êtes responsable, c'est vous qui l'avez éveillé et réveillé en lisant telle ou telle lecture, en faisant tel ou tel jour, en regardant telle ou telle photographie. Ça peut réveiller certaines imaginations. Alors là, on en est coupable parce qu'on n'a pas été assez prudent. Il y a une question de prudence pour essayer de d'endiguer nos forces imaginatives dans un domaine où, de fait, notre prudence peut continuer de gouverner notre vie. L'imagination a donc une très grande force d'envoûtement, d'enveloppement sur nous. Surtout quand notre pensée est fragile et faible. Quand notre pensée est forte grâce à certains habitus scientifiques, mathématiques, scientifiques et surtout la sagesse philosophique. Alors, l'imagination diminue beaucoup parce que notre capital de vie étant limité, si notre capital de vie est mobilisé par la recherche métaphysique, l'imagination reste tranquille. Tandis que si notre capital de vie n'est pas du tout pris par le point de vue de la connaissance et de la connaissance intellectuelle, si nous avons une peine énorme à faire une abstraction métaphysique, l'imagination est là, on n'arrivera absolument pas. Alors à ce moment-là, il faut à tout prix, pour arrêter l'imagination, il faut l'endiguer par le point de vue de faire autre chose, un travail. Et plus de travail qui nous tient sensiblement et qui réveille les sens externes. Les sens externes ont une puissance énorme, puisqu'ils sont premiers. Et alors, les sens externes peuvent très bien, dans le travail sensible, le travail manuel, peuvent très bien arrêter l'imagination. Vous voyez, là, tout un effort très très grand. Il y a un effort éducatif. On s'éduque en arrêtant notre imagination. Est-ce que, c'est ça qui serait intéressant de se poser la question, est-ce que la psychologie peut arrêter l'imaginaire? Parce que la psychologie est une connaissance spéciale sur notre conditionnement, qui lui est toujours plus ou moins lié à l'imaginaire. Alors on peut faire glisser certains courants imaginatifs vers des connaissances sensibles plus immédiates qui vous sont données et que la psychologie peut mettre en pleine lumière. Alors ça peut endiguer, ça peut aider, je crois. Mais pas directement. La psychologie n'a pas de pouvoir direct sur l'imaginaire. C'est en prolongeant l'imaginaire que vous découvrez cette faculté sensible qui est la mémoire. Imagination et mémoire vont dans le même sens, du moins se prolongent. Alors ce qu'il faut bien comprendre ici, tout un domaine qui n'est pas tellement exploité et qui sexuelles sont-elles tangibles? Sont-elles gustatives? Proust, la Madeleine. C'est une imagination. Oui, cette Madeleine qui a un goût de savon. Imagination poétique qui sont tout de suite symboliques, tout de suite. Et vous retrouvez ça dans la mémoire, les mots, les symboles, et dans la réminiscence. Vous avez donc là une connaissance sensible qui, chaque fois, a son domaine propre. Qu'apporte la mémoire? En plus de l'imagination, la référence au temps. La mémoire a toujours une référence au temps. Tandis que l'imaginaire, pas toujours. L'imaginaire peut vous faire dépasser le temps. Le monde imaginaire est au-delà du temps. Tandis que le monde de la mémoire est lié au temps. Au temps et à la durée. Ça s'est passé. Quand on se rappelle de très vieux souvenirs et qu'on a mis du temps qu'elle voit. imagination. Il y a des vieillards qui ont une très grande imagination. Mais ils peuvent perdre la mémoire. Puisque la mémoire est liée au temps. Elle est liée aussi au lieu. Ce point de vue de la mémoire, c'est tout ce domaine du patrimoine psychique. C'est lié à la culture. C'est lié à votre monde intérieur. Si donc votre mémoire est très forte et très grande, vous pouvez plus facilement demeurer en vous-même. Imaginativement. Si votre mémoire est très faible, très usée, vous avez plus besoin de revenir toujours au milieu extérieur. Vous êtes donc plus réaliste. C'est très bien d'avoir une très bonne mémoire, mais c'est très dangereux. Parce qu'on se contente de son monde intérieur. On se contente de tout ce qu'on a pu garder et qui n'est pas le monde le plus riche. C'est le monde extérieur qui est le plus riche et qui me renouvelle tout le temps. Le monde intérieur ne me renouvelle pas. C'est du passé, c'est du vécu. Or, certaines personnes, quand elles sont particulièrement vulnérables, ne veulent plus s'enrichir et veulent uniquement le vécu. Ça, c'est le signe. Ça commence à aller mal. Mais c'est comme celui qui n'a plus d'appétit, vous voyez. Il n'y a plus d'enrichissement. Et des personnes vieilles peuvent très bien avoir une phobie de tout ce qui vient de l'extérieur. Alors à ce moment-là, le champ d'action du vivant, le vécu du vivant, l'emporte sur ce qui est à vivre. Et on se coupe du reste. Alors, on trouve ça vraiment beau. Pour aller toujours plus loin. Si on se coupe de tout ce qui est extérieur, de tout ce qui nous permet renouveler certains schèmes intérieurs. C'est une destruction, pas une destruction violente, mais une destruction de celui qui commence à s'endormir. Il n'est plus capable d'intégrer du nouveau. On ne peut intégrer du nouveau que si l'intelligence est suffisamment pénétrante pour que l'image soit dépassée et qu'on joigne la réalité. Parce que tout cela, je dis l'essence, l'expérience interne, tout cela est mon immanence. À partir de l'expérience interne, c'est mon immanence. Seule l'expérience externe me fait rejoindre la réalité existante, extérieure à moi, celle qui m'enrichit. Le vécu n'enrichit plus. Il est du vécu. Il est porteur d'acidité. Et c'est vrai, selon certains tempéraments, parce que quelquefois le vécu peut être porteur d'exaltation. Mais ordinairement, la plupart du temps, surtout dans le monde d'aujourd'hui, il est porteur d'acidité, de tristesse, de poids. On n'arrive plus, on s'en tirait. On reste immanent à soi-même. Il n'y a plus ce contact à l'extérieur. Donc tout ce domaine est très intéressant. C'est le domaine du psychisme. Avec les refoulements qui viennent augmenter et intensifier l'imaginaire. Parce que les refoulements, c'est du second. C'est jamais premier. Et l'imaginaire aime tout ce qui est second. Elle n'aime pas beaucoup ce qui est premier. Ce qui est avant elle. Ce qui vient la mesurer. Ce qui vient lui rappeler, vous êtes dans l'imaginaire. C'est jamais agréable quand on vous dit ça comme ça, vous êtes dans l'imaginaire. Ce que vous croyez penser maintenant, c'est le pur imaginaire. Manquer complètement de réalisme, c'est jamais très agréable, on vous dit ça. Et vous avez envie tout de suite de prouver l'inverse. Et vous avez raison de vous réveiller. Mais c'est vrai que il y a quelque chose de particulièrement triste de ne plus avoir contact avec l'extérieur. Ce qui exige une certaine vitalité. C'est pour ça que éveiller quelqu'un au réalisme, ça le réveille et ça lui permet de vivre plus ancien, plus vieux. École de réalisme, école pour vieillir bien. Parce que s'il n'y a plus ce réalisme, on se replie très vite sur soi. Et quand on se replie très vite sur soi, au bout d'un certain temps, on n'a plus envie de manger. Parce que manger, c'est une prise de conscience du monde extérieur. Et on ne veut pas ce monde extérieur. On est heureux d'être avec soi-même. Ou on est malheureux d'être avec soi-même. Mais un malheur tel qui fait que personne ne me comprend. Donc, je m'enferme sur moi-même. Et c'est le danger de l'idéalisme, c'est le danger de toutes ces philosophies d'immanence, qui sont des philosophies de vieillesse d'une culture, d'une richesse sans doute, mais d'une vieillesse. Les jeunes cultures n'ont pas du tout ce danger-là. C'est un danger beaucoup moindre en Afrique qu'en Europe. En Europe, c'est une vieille culture, alors qu'il y a des richesses étonnantes, mais qu'il y a aussi ce danger de se refermer sur elle-même. Et tout ça peut s'expliquer par ce psychisme que nous portons en nous. Nous portons en nous des forces vives qui font tout le temps pour que l'immanence en nous soit de plus en plus ce qui nous fait vivre. Le musée intérieur, vous voyez, ou la bibliothèque intérieure. soin de m'occuper du reste. Mais la devise que je vous ai déjà dit de ces personnes qui étaient en face de notre couvent d'Étiole dominicain, ne jamais rien demander aux autres pour ne jamais rien devoir. Ça, c'est le signe de celui qui s'enferme complètement dans son château fort et qui a levé les bons. Alors, c'est vrai que l'humanité, quelquefois, arrive à cette espèce de peur de tout ce qui vient de l'extérieur. Et tout ça se comprend dans la mesure où l'imaginaire s'est beaucoup développé. Et la mémoire aussi. Nous sommes un monde aujourd'hui, par le cinéma, par la télévision, qui est un monde qui favorise énormément l'imaginaire. L'imagination est une chose bonne, mais il y a un péril. Parce qu'elle peut arrêter complètement la possibilité du contact avec l'extérieur. Et c'est le contact avec l'extérieur qui met en présence de quelque chose de nouveau. Et il n'y a que là où il y a ce nouveau. Tout le reste, c'est du déjà vécu. Et quand elle est en face du déjà vécu, ça nous apporte beaucoup moins. Et ça nous